Bien, nous reprenons. En tout cas, je reprends. Après tout, on ne sait jamais si tout le monde reprend. Au moment où on dit « nous reprenons ». C'est comme en allemand « wir wollen es weitermachen ». Nous voulons continuer, alors qu'un seul veut continuer en réalité, comme on le sait dès la première année de l'allemand « langue vivante ». Enfin, c'était mon cas en tout cas. Y a-t-il seulement un concept de la passion? Dans cet ensemble de d'énoncés néo-testamentaires, dont je vous disais en concluant la première heure que tous trois nous présentaient des acceptions de pathos et pathé connotées négativement. Y a-t-il seulement un concept de la passion? Sans aucun doute. Mais ce concept de la passion, il ne faut pas le demander à un texte religieux, il faut le demander, si on veut l'avoir à l'état pur et naissant, à un théologien. Donc non pas un concept reconstruit, mais un concept qui se construit, se présente dans le vif d'une élaboration dogmatique. C'est à un théologien qu'il faut le demander, ou plutôt les demander, ces concepts, car on peut imaginer à la simple lecture des textes de Paul qu'il y en aura plusieurs concepts et probablement en conflit. La théologie chrétienne étant à tous les niveaux, y compris conciliaire, travaillée par les oppositions d'école qui voient sur la longue durée et par les canaux les plus divers s'affronter les grandes philosophies de l'Antiquité grecque et romaine, aristotélisme, mais aussi platonisme au pluriel et stoïcisme. J'en viens donc aux pères cappadociens, Basile de Césarée et Grégoire de Nice. Pour Basile et Grégoire, théologiens, la passion qui concerne l'âme s'entend de deux façons, en un sens moral et en un sens non moral. Cette distinction est capitale pour la controverse monothéliste, c'est-à-dire la controverse sur l'existence dans le Christ d'une ou deux volontés. L'interprétation, elle est capitale, donc cette distinction, pour la controverse monothéliste et très précisément pour l'interprétation de la prière d'agonie du Christ et l'existence même de ce que j'appelais l'an dernier le problème de Gethsémani, c'est-à-dire l'épisode du refus de la coupe. Père, éloigne de moi ce calice, hein, cette coupe. Alors, si l'épisode du refus de la coupe n'est pas posé à un niveau moral, il n'y a pas de problème de Gethsémani, car il n'y a pas de conflit entre une volonté divine et une volonté humaine du Christ. Le refus de la coupe relevant dans le Christ, non de la volonté proprement dite, mais d'un simple mouvement naturel de la chair qui craint la mort. La chair se rebelle contre la mort qui vient. Pas de volonté là-dedans. La théologie de la passion avec un grand P est donc tributaire de la définition de la passion avec un petit p, et de la détermination, distinction de ces deux acceptions, morale et non morale. Les deux, la théologie de la passion avec un grand P et la théologie de la passion avec un petit p, sont inséparables. Ce qui confirme la force du lien que je rappelais au début de l'heure précédente entre christologie et anthropologie et l'implication mutuelle de leurs révolutions et progrès respectifs. Donc avant de reprendre le dossier de Gethsémani chez Maxime le Confesseur, qui sera mon grand auteur, comme Sergius de Constantinople l'avait été pour une séance l'an dernier, cette année, nous consacrerons une séance à Maxime. Avant de reprendre le dossier de Gethsémani chez Maxime le Confesseur et l'ensemble des développements que Maxime apporte aux questions articulées par les formulations du Psephos, du caillou de Sergius de Constantinople et de l'ecthésis de l'empereur Héraclius, il faut examiner la thèse basiléenne et nicénienne ou grégorienne et plus largement cappadocienne, puisqu'il s'agit de pères cappadociens, il faut examiner donc la théorie cappadocienne, disons, de la passion. Au sens moral, avec un petit p, au sens moral, la passion est, selon Grégoire et Basile, la tendance au péché. Au sens non moral, c'est la souffrance de l'âme, ce qu'on pourrait appeler la souffrance psychique. La vie du Christ est une illustration et jusqu'à un certain point le paradigme de la passion au sens non moral, autrement dit le paradigme de la souffrance psychique. Le Christ souffre. Sans parler de la prière d'agonie et du refus de la coupe, sur lequel nous reviendrons abondamment dans les séances qui viennent. Les épisodes de souffrance psychique ou psychologique, de souffrance de l'âme et dans l'âme, abondent dans les évangiles s'agissant du Christ. Je me limite à l'essentiel. Il y a les pleurs à la mort de Lazare. Eda crucien o Iesus, dit Jean 11, 35, et lacrimatus est Iesus, dit la Vulgate. Luther, und Jesus ging die Augen über, King James Version, Jesus wept. Martin, Darby, Segon et bien d'autres, Jésus pleura. Il y a la tristesse ou l'angoisse proprement psychique qui, en Matthieu 26, 38, précède la première formulation du refus de la coupe. Le refus de la coupe a lieu en 26, 39. Le moment d'angoisse est articulé en Matthieu 26, 38, dans la phrase « Estin et psyche mou eos thanatou »« Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme. Vous trouverez beaucoup de traductions disant « Je suis triste jusqu'à la mort. » Bien sûr, enfin oui, certes, mais bon, ce qui est dit, c'est « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il faut se souvenir de ça. Donc, je vous rappelle la séquence Matthieu 26, 36, 38 dans la traduction française de la Vulgate latine. 36, verset 36, un peu après, Jésus alla avec eux dans le lieu qu'on appelle Gethsémani et il dit à ses disciples, « Demeurez ici pendant que je vais faire là ma prière. » Et, 37, « Prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et affligé. » Verset 38, « Alors il leur dit, « Je suis dans une tristesse mortelle, » voyez la traduction de la Vulgate, « Attendez ici et veillez avec moi. » Alors que le grec disait très clairement, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, est triste à mort. » Enfin, il y a le cri de détresse, le cri de déréliction, le cri d'abandon sur la croix elle-même, Matthieu 27, 46, Eli, Eli, lema sabachthani, formule hébraïque préservée aussi bien dans le grec de Matthieu 27, 46. Eli, Eli, lema sabachthani, tu estin te mu, te mu inatime, encatelipes. Donc une formule hébraïque qui est préservée dans le grec de Matthieu 27, 46, mais aussi bien dans le latin de la Vulgate, vous voyez, même si les gens ne comprennent plus tout à fait ce que ça veut dire, il y a la traduction, chaque fois, « Eli, Eli, lema sabachthani, hoc est deus, meus, ut quid de reliquisti me. » Luther, « mein Gott, warum hast du mich verlassen? My God, why hast thou forsaken me? » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au sens non moral, toujours, la passion, c'est aussi la mort. Donc, ce n'est pas que la souffrance psychique, c'est aussi la mort, comme de rechef, paradigmatiquement, dans le cas du Christ, qui réunit souffrance et mort. Maintenant, qu'est-ce que la passion au sens moral ? Grégoire et Basile répondent, c'est la tendance au péché et c'est le produit du péché. C'est donc à la fois un processus et son résultat. La question devient, qu'est-ce que le péché, alors. Si la passion, c'est la tendance au péché, qu'est-ce que le péché ? J'aimerais vous rappeler ici la thèse de la non-substantialité du mal, évoquée il y a 2 ans en lisant l'opuscule de Proclus, abrégé dans sa langue originale, grecque, par Isaac Komnène, le Sébastocrator, frère de l'empereur Alexis Ier Komnène, 1081-1118. Cet abrégé, donc, a été traduit en latin en 1280 par Guillaume de Meurbeke, et on a donc le titre De Subsistentia Malorum. Dans cet opuscule, le mal est défini comme n'ayant ni essence ni hypostase propre. Il est an ousion et an hypostaton. Il n'a pas de réalité positive. Il n'a d'existence qu'à titre parasitaire, comme parasite du bien. Le bien a une existence positive, le mal parasite le bien, en quelque sorte. Il se nourrit du bien dont il est en fait la privation. Il a besoin du bien, le mal, pour... non pas être, puisqu'il n'est pas, mais être la privation du bien. Il est privation du bien, donc parasite du bien. C'est une vue de ce genre que soutiennent les pères cappadociens à propos du péché. À un niveau qui n'est plus ontologique, je voyais quelques visages tout à coup présenter un pli soucieux à la hauteur du front, n'est-ce pas, en disant qu'est-ce que c'est qu'une existence parasitaire que, le grec par hypostasis, qu'est-ce que ça peut bien être que ça ? Eh bien, une existence qui n'en est pas une, un mode d'existence sans essence propre ni hypostase, bon, c'est un peu abstrait, comme on dit, mais ici, chez les pères cappadociens, on n'est plus au niveau ontologique, si je puis dire, on est au niveau psychologique. Ce changement de scène est capital. On passe de la scène du monde, de l'être, de l'étant, à la psyché. Le point est évidemment essentiel pour la théodicée et pour le problème de la responsabilité divine du mal. Le mal n'existe pas, disent les Cappadociens, en dehors du vice. Il n'est pas, donc, exo proireseo. Il ne peut pas exister hors de la volonté humaine. Et s'il ne peut pas exister hors de la volonté humaine, eh bien alors, il ne peut pas avoir Dieu pour auteur. Voici un texte de Grégoire de Nice dans l'Oration, le grand discours catéchétique. Tout mal, écrit-il, se caractérise par la privation du bien, sans avoir d'existence propre, ni se présenter à la pensée comme une réalité. On est dans ce que je disais, la non-substantialité du mal. On est au niveau ontologique presque. Aucun mal, en effet, et là on passe à la psychologie, aucun mal, en effet, n'existe en dehors de la volonté. C'est l'absence du bien qui donne son nom au mal. Or, ce qui n'est pas n'a pas de réalité, et ce qui n'a pas de réalité n'est pas l'œuvre de celui qui a créé la réalité. C'est l'absence de bien qui donne son nom au mal. On a du mal, si j'ose dire, à comprendre cette phrase. On dit, mais attendez, vous dites n'importe quoi, vous venez de parler du mal, en utilisant un mot, le mot mal, pour désigner le mal. Donc, en quoi est-ce que c'est l'absence du bien qui donne son nom au mal ? Eh bien, précisément parce qu'il n'y a pas de contenu à mettre sous le mot « mal ». Il n'y a rien à entendre, ni à poser, ni dans l'être, ni dans la pensée, d'autre qu'une absence de bien, une privation de bien, une absence. Donc, il faut entendre que l'absence du bien donne son nom au mal. Bon, fait que le mot « mal » renvoie à quelque chose, et ce quelque chose précisément n'est aucune chose, n'est rien, n'est qu'une absence de bien. Voilà ce qui est dit là. On est sur un terrain psychologique, on est sur un terrain psychique. Le péché, c'est le mal intériorisé. Le péché n'a pas de définition positive. Il est défini négativement. On peut même dire de manière doublement négative. On devrait même dire par une double négation. Ça, c'est la grande originalité des pères cappadociens. De même que le mal n'a de nom, c'est-à-dire que le mot mal ne fonctionne comme nom, hein, qu'à désigner une absence de bien, c'est-à-dire rien de positif. Eh bien, de même le mal ne reçoit de nom, n'est nommé mal que pour précisément désigner, que soit désignée une absence de bien, eh bien, le péché n'est et n'a de nom que comme absence, disent les Cappadociens, absence d'apatheia, absence d'impassibilité. Le péché, c'est le contraire de l'apatheia, de l'apathie, de l'absence de passion. Le contraire du bien, le contraire de la vertu. La réalité positive, alors c'est là que je parle de double négation, la réalité positive, ou plutôt fondamentale, qui elle seule peut être définie, posée comme une vertu, et même comme la vertu, et en vous, en moi, c'est l'apathie. L'apathie, la patheia, est et elle seule est le bien pour l'âme, et le bien de l'âme est le bien en l'âme. Elle seule est la vertu. La passion est tendance au péché. En tant qu'elle est tendance au péché, elle est tendance à l'absence d'apathie. Elle est mouvement vers l'absence d'apathie. Tendance à l'absence d'absence de passion. Il est difficile de s'exprimer d'une manière plus négative, plus apophatique que cela. Absence de l'absence de passion. Voici, pour illustrer la distinction entre sens non moral et sens moral de la passion, deux textes des pères cappadociens. Donc le premier sera de Grégoire de Nice et le second de son frère Basile de Césarée. Le premier est tiré de l'ouvrage de Grégoire intitulé « Contre un homme ». Et Grégoire met dans ce texte en œuvre une distinction fondamentale entre deux sens du mot « pathos ». Le sens propre, curios, et le sens catacrétique. Le mot pathos, en effet, soutiennent les Cappadociens, est employé tantôt au sens propre, tantôt en un sens catacrétique, par une catacrèse. Voilà donc le texte du contrat contre un homme. Nous nommons au sens propre passion, pathos, cela seulement qui est conçu comme contradictoire, en contradiction avec, incompatible avec l'absence de passion qu'est la vertu. La passion, c'est ce qui est conçu comme contradictoire avec l'absence de passion qu'est la vertu. Les propriétés de notre nature, qui sont appelées de façon homonyme passion, qui sont appelées passion par une catacrèse habituelle, eh bien, nous confessons que le Seigneur y a pris part. Donc ce texte est destiné à nous faire connaître quelles sont les passions qui ont bien pu affecter le Christ, homme et Dieu. Eh bien, uniquement en tant qu'homme, ce qu'on appelle les idiomes, les propriétés de la nature humaine qu'on appelle passion, par catachrèse habituelle, donc on va essayer de comprendre cette expression, c'est-à-dire par homonymie avec ce que désigne le terme passion au sens propre et qui est le sens moral. Nous avons une traduction anglaise qui n'est pas inintéressante et qui est tout à fait récente. Properly speaking, we call passion only what is contrary to the impassibility of virtue. Nous appelons passion seulement ce qui est contraire à l'impassibilité de la vertu. Bon. Alors, évidemment, on ne peut pas imaginer que cela a bien pu se trouver chez le Christ. Parce que ce que le Christ a assumé, c'est la nature humaine. Et donc, il n'a pas assumé plus que ce qu'il y a dans la nature de chaque homme. Et donc, ce qui est véritablement passion, passion au sens véritable, passion qui n'est rien d'autre que « a disease of the will », une maladie de la volonté, une maladie éminemment individuelle, propre à chaque homme en sa passion propre et sa volonté propre, eh bien, cela, le Christ ne l'a pas assumé. Il n'y a pas part. Il n'a part qu'à ce qui concerne la nature de l'homme. Or, les traits de notre nature, les caractéristiques de notre nature, que sunetheias, par habitude, terme que vous trouvez chez Aristote, hein, dans la Poétique, et katakreseos, alors là, le traducteur en anglais, anglophone, traduit usage. Ça serait peut-être abus plutôt qu'usage. Hein. Mais bien entendu, katakreseos, c'est par katakrese. Et donc on a ici une figure de rhétorique sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. S'il y a katakrese, c'est pour dire quelque chose. On ne parle pas pour ne rien dire. Eh bien, les traits de notre nature que par sunetheia et par katakrese, qui par sunetheia et par katakrese reçoivent le même nom de passion que toutes ces horreurs, n'est-ce pas, qui dépendent de notre volonté propre, eh bien, celle-là, oui, celle-là, nous confessons que le Seigneur les a possédées, les a eues, puisqu'elles ne dépendent pas de la volonté, et elles sont des traits caractéristiques de la nature de l'homme assumés comme tels dans l'incarnation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la naissance. C'est, donc, on va le voir, il y a la naissance, il y a la mort, il y a le sommeil, il y a la fatigue, il y a, en somme, tout ce qui peut concerner la souffrance, n'est-ce pas ? Qui a sa cause dans le corps et réclame une âme pour se déployer pleinement. Parce que vous voyez que appetite extends the desire of the one in need from the body to the soul, the feeling of pain too, and dread of death, etc. Il y a bien sûr ce que le corps souffre, mais il y a aussi ce que l'on éprouve du fait qu'il y a, on avait commencé par là il y a quelques jours, dans le premier cours, en évoquant le dérangement dans le corps selon Descartes, n'est-ce pas ? Bon, ce qui est dérangé dans le corps va être cause que l'on éprouve quelque chose qu'on va présenter comme une souffrance qu'on ne peut pas ne pas éprouver, mais pour l'éprouver, il faut bien une âme, parce que c'est de la rencontre de ces deux et de l'union de l'un avec l'autre que résulte précisément cela, cette souffrance. Donc, vous voyez, ce qui dépend de notre nature et que seul la sunetheia et la katakrèse font appeler du même nom que les dépravations qui dépendent de notre volonté, eh bien, cela, le Christ les a assumés, alors qu'il n'a évidemment pas, dans l'incarnation, assumé, ni donc pu éprouver, en tant que Dieu fait homme, Dieu incarné, cela au moment donc, de son existence terrestre. Donc. Et les trois exemples de souffrance qu'on a mentionnés, et que j'ai appelés de souffrance psychique, effectivement, n'ont rien à voir avec la dépravation. Donc, voilà la différence qui est faite entre le pathos au sens propre et le pathos au sens catacrétique. Alors, essayons de reprendre ça pour y voir clair. Au sens propre, kurios, le pathos vient du péché, du contraire de l'apatheia, de l'apathie, de la vertu. Le pathos est le péché, il est la tendance au péché. Au sens catacrétique, compris par catacrèse, il désigne les idiomes, idiomaton, les propriétés de la nature humaine. Celles-ci ont une importance caractéristique, puisque ces propriétés de la nature humaine, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles ont pour source la vie naturelle. C'est en ce sens catacrétique que le pathos peut se situer à un niveau inframoral ou extramoral. Le sens moral, en revanche, est celui qu'indique la formule assertant que la passion au sens véritable est maladie de la volonté. Le deuxième texte qui peut nous intéresser figure dans la lettre 261 de Basile de Césarée aux habitants de Sozopolis. Le frère de Grégoire y fait une distinction capitale pour l'archéologie de la passion, dans la mesure où il distingue trois sortes d'affections. Les affections de la chair, à la sarcos pathé. Les unes sont pathé, sarcos, affections de la chair. Il y a les affections de la chair animée, sarcos empsuku, douée d'une psyché, d'une âme. Et enfin, il y a celle d'une psyché qui est kremenes somati, une psyché, une âme, traduit le traducteur de Budé, M. Courtonne, une âme qui dispose d'un corps. Basile écrit ceci, « Dire que les affections de l'âme » de l'homme, pardon, passe dans la divinité elle-même. C'est-à-dire que toutes les passions seraient assumées par le Christ Dieu fait homme. Rappelez-vous, tendance au péché, dépravation. Dire que les affections de l'homme passent dans la divinité elle-même est le fait de gens qui ne conservent rien de la suite logique des idées et qui ne savent pas qu'autre chose sont les affections de la chair, autre chose celle de la chair animée, sacros empsuku, autre chose enfin, celle d'une âme qui dispose d'un corps. On va prendre des exemples. Le propre de la chair, donc qu'est-ce qu'elle peut souffrir, la chair, hein? Elle peut être, qu'est-ce qui peut lui arriver? Elle peut être coupée, elle peut être diminuée, elle peut être désagrégée. Celle de la chair animée, hein? Qu'est-ce que ça va être? Ça pâté, si je finis, c'est pâté, ça va être d'être fatigué, éprouver de la douleur, avoir faim, avoir soif, être vaincu par le sommeil. Le propre d'une âme qui dispose d'un corps, ce sont les chagrins, les inquiétudes, les soucis, et toutes les autres affections du même ordre. Les unes, les deux premières, sont naturelles et inséparables de l'être vivant. Les autres proviennent d'une volonté perverse. Et elles s'introduisent à côté des premières à la faveur d'une vie mal réglée et qui n'est pas exercée à la vertu. On voit par là que le Seigneur acceptait les affections naturelles, c'est-à-dire les premières, sarkos, sarkos, pate, sarkos, emsuku. Il les a acceptées, il les a assumées pour qu'on ne dise pas l'incarnation, c'est du toc. Hein? Pour donner la certitude d'une incarnation réelle. Je suis homme comme vous. J'éprouve de la douleur, j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil. Et puis, bon, ma chair peut être coupée, martyrisée, diminuée, tranchée, désagrégée, corrompue. Le Seigneur a accepté les affections naturelles pour donner la certitude d'une incarnation réelle et non pas seulement apparente, mais toutes les affections vicieuses, c'est-à-dire la troisième variété, psuches, somatiques et crémenes, qui souillent la pureté de notre vie, il les repoussa comme indigne de sa divinité sans tache. Basile conclut, c'est pour cette raison que l'on a dit qu'il est né, le Christ, dans la ressemblance de la chair de péché. Il est né dans la ressemblance de la chair de péché. Il n'est pas né dans la chair de péché complètement, puisque précisément, s'il avait été capable d'affections vicieuses, effectivement, alors il serait né vraiment dans la chair de péché. Il est né dans ce qui est seulement une ressemblance, qui ne contient en somme que les souffrances et les affects matériels, si on peut dire. Bon, alors, notez deux choses, rapidement. Concernant la différence entre ala sarkos pate, ala sarkos emsuku, ala psukes somati ke kremenes. Ne vous laissez pas abuser par la traduction qui dit les pate d'une âme qui dispose d'un corps. En fait, il s'agit d'une âme qui use d'un corps, qui se sert d'un corps, qui a l'usage d'un corps. Vous trouvez donc ici le thème de l'usage des corps, hein, qui use d'un corps. Et donc, vous reconnaissez en l'espèce de kekremenes, hein, le mot kekremenos, que nous avions rencontré en 2015 chez Jean de Damas dans ce que j'appelais les quadrangles de la volonté et de l'action, où Jean de Damas distinguait par exemple pour la volonté, et bien précisément la volonté, télésis, le volitif, télétikon, le voulu, téléton, hein, et puis le voulant, hein, qu'il appelait o kekremenos te telesei, celui qui se sert, qui utilise la volonté. Et on avait vu que pour la théorie de l'action chez Jean de Damas, on trouvait aussi une distinction entre l'opération, l'action, energeia, l'opératif, ce qui peut agir, opérer, energetikon, l'opérer, E accent aigu, energima, en latin ce qu'on appelle l'accompli, l'acté, hein, et enfin l'opérant, O energon, qui était encore appelé O kekremenos te energeia, celui qui se sert de l'energeia. Donc, kekremenos, c'est véritablement celui qui utilise, celui qui fait usage, alors ici, effectivement, d'un corps, hein, celui qui fait usage d'un corps. Donc, ça nous renvoie au rapport de l'âme et du corps à raisonner, si je puis dire, dans la figure de l'usage du corps et de l'usage des corps, évoqué en 2014 à propos du commentaire foucaldien de l'Alcibiade, où dans la réécriture du texte de l'Alcibiade, Foucault introduit la notion de sujet en tant que sujet utilisant un corps. Alors, il y a bien la notion d'usage dans la pensée grecque, mais il n'y a pas celle de sujet qu'il y introduit. Donc il faut dire l'usager plutôt que le sujet agent. Il faut dire le voulant plutôt que le sujet voulant. Supprimons le sujet, en l'occurrence, si nous lisons ces textes anciens, mais sachons reconnaître la figure du kekremenos, de l'utilisateur, de l'usager, de celui qui use de. Maintenant, concernant la formule « ek katakreseos » par « katakres », j'ai noté que la traduction anglaise reculait devant la katakrese, n'est-ce pas, et rendait le texte grec par « which by custom and usage », l'usage. Ben, il n'y a pourtant pas lieu de se priver de ce beau terme. Katakrese, ce n'est pas une injure. Cela peut le devenir, mais c'est une figure de rhétorique. Je dis que ça peut devenir une injure. Effectivement, tous les tintinophiles, qui sont nombreux dans cette salle, j'imagine, le savent bien. On trouve « katakrese » comme une injure, par exemple, dans les bijoux de la Castafiore. « Mais je ne vous insulte pas, espèce de katakrese !» Je parlais à un perroquet qui... Allô ? Bon. Le perroquet du capitaine Haddock, que vous avez, qui me fournit un argument ad hoc, le perroquet des bijoux de la Castafiore dit sans arrêt « Allô, j'écoute » et « dring, dring », ce qui exaspère le capitaine. Le capitaine interpelle le perroquet alors qu'il a au bout du fil une dame, n'est-ce pas ? Lui, pas le perroquet. Donc il interpelle le perroquet et lui dit « Vas-tu la boucler, oui ou non, espèce de vieille perruche bavarde ?» La dame, au bout du fil, prend l'insulte pour elle et traite le capitaine de mufle. D'où la réponse « Mais je ne vous insulte pas, espèce de catacrèse !» Immédiatement, la femme raccroche, le capitaine est en furie, il veut, dit-on, noyer le perroquet. Qu'est-ce qu'une catacrèse ? Eh bien, quand une chose n'a pas de nom, on se sert du nom d'autre chose, on profite du nom d'autre chose, on met à profit. Catacrao, profiter de. On met à profit, on profite du nom d'autre chose pour la désigner. Les trois principales variétés de catacrèse sont les catacrèses par métonymie, les catacrèses par synecdoque et les catacrèses par métaphore. Les catacrèses, ce sont au fond des métonymies, des synecdoques, des métaphores lexicalisées. Le TLF dit « extension du sens d'un mot à une idée dépourvue de signes propres dans la langue ». Quelque chose qui n'a pas de nom, il faut bien le désigner. On le désigne comment ? Eh bien, par une sorte de déplacement. On étend le sens d'un mot qui existe à une idée qui, elle, malheureusement, est en manque de signes pour la désigner. Catacrèse par métonymie, on va dire la cour pour l'ensemble des courtisans. La catacrèse par synecdoque, on va dire un bronze pour désigner un vase de bronze. La catacrèse métaphorique, on va dire les ailes, l'aile gauche, l'aile droite, l'aile A, l'aile B d'un bâtiment. Le bâtiment n'a pas d'aile, mais pourtant. Bon. Donc, alors, je vous recommande vivement de lire les figures du discours de Fontanier, qui sont toujours une source de plaisir, et qui distinguent assez clairement, ce qui est vraiment difficile, je dois dire, là, et d'ailleurs, personne ne s'accorde vraiment sur tout cela, mais bon, qui distingue assez clairement la métonymie et la synecdoque. Dans la métonymie, on a deux objets qui forment un tout qui existe à part. Et ces deux objets entretiennent un rapport de dépendance qu'on va appeler dépendance externe. C'est par exemple un rapport de cause à effet ou un rapport contenant-contenu. Donc la synecdoque rassemble deux objets qui forment un ensemble tel que l'existence ou l'idée de l'un se trouve comprise dans l'existence ou l'idée de l'autre. Donc ils ont un rapport de dépendance interne. Par exemple, tout parti. L'idée du tout est comprise dans celle de la partie, l'idée de la partie est comprise dans celle du tout. Hein, bon. Et de même, genre et espèce. L'idée de l'espèce est comprise dans celle du genre, l'idée du genre est comprise dans celle de l'espèce. Certains ajoutent que la métonymie est qualitative, la synecdoque est quantitative. Bon. On peut dire, en gros, quand même, que dans la synecdoque, qui est ce qui nous intéresse le plus, quand même, la partie est mise pour le tout. Quand, par exemple, on dit une voile pour un navire, il y avait 100 voiles à l'horizon. Bon, quand le Cid dit ce bras, qui, bon, etc., il parle de lui. Hein. Quand on utilise l'âme pour désigner un individu, ben, c'est aussi une partie qui est mise pour le tout. Hein. Ou le corps, pour désigner un individu. Le tout pour la partie, c'est beaucoup plus difficile dans le cas de l'individu. Hein. Un exemple donné par un spécialiste, un linguiste, est par exemple quand on parle du sang pour la personne qui est issue de ce sang. Voici mon sang. Pour quelqu'un qui est de mon sang. Bon, il y a un vison pour un manteau en poil de vison, mais enfin, je n'ose employer une expression de ce genre dans ce cadre. Bon, l'espèce pour le genre, le genre pour l'espèce. On a la synecdoque d'individu qui est l'antonomase, alors celle-là on la connaît bien. L'apôtre pour dire Paul, le philosophe pour dire Aristote, le commentateur pour dire Averroès, le troyen pour dire Énée. Hein. Bon, c'est un nom propre pour désigner un individu. Il y a des cas où un nom propre va désigner une espèce, par exemple Mégère. C'est le seul exemple qui m'est venu à l'esprit. Enfin, non, il m'en... poubelle. Enfin, oui, bon, j'aggrave mon cas. Bien. Mais enfin, tout ça sont des réflexions postérieures à l'époque de Grégoire de Nice et un travail que je n'ai pas fait, mais qu'il faudrait faire, serait de savoir exactement ce que l'on entend dès par catacrèse à l'époque de Grégoire de Nice. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est que dans le texte de Grégoire de Nice, l'absence d'absence de passion a un nom, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la passion. La passion, c'est l'absence d'absence de passion. Dans un remarquable cercle. Le contraire de l'absence de passion est le mal, c'est le péché. Donc il n'y a pas de mot, au fond, pour dire l'absence d'absence de passion, le manque d'apatheia, sinon le mot pathos lui-même, qui est détourné de son sens propre, le péché, et étendu à tout ce qui n'est pas apathique. C'est assez extraordinaire. Comment parler d'une absence, effectivement ? Comment parler de ce qui n'est pas ? Bien, il n'y a pas de mot pour dire l'absence d'absence de passion, sinon passion. La passion, c'est l'absence d'absence de passion. Eh bien, vous allez me dire, c'est incompréhensible. Je vous renvoie aux bijoux de la Castafiore, puisque dans les bijoux de la Castafiore, le mot, le capitaine ad hoc, n'est-ce pas, n'a pas de mot pour dire à son interlocutrice ce qu'il pense d'elle, puisqu'il est à la fois dans la négation et même la dénégation. Je ne vous insulte pas. Qui s'entendrait mieux s'il disait je ne vous insultais pas ? Je ne vous ai pas insulté. Il dit « Je ne vous insulte pas ». Et au moment où il dit « Je ne vous insulte pas », il l'insulte. Espèce de... Alors, qu'est-ce qu'il peut dire ? Il ne va pas dire « Je ne vous insulte pas, espèce d'imbécile ». Il dit donc, puisqu'il est à la fois dans la négation et dans l'affirmation, il dit donc « Je ne vous insulte pas, espèce de catacrèse ». C'est-à-dire qu'il détourne le mot désignant le détournement de sens pour dire ce qu'il ne peut exprimer par un autre mot, qui serait le mot juste, en l'occurrence pris au sens propre, à savoir le mot imbécile ou idiote ou vieille perruche bavarde. Il détourne, en somme, le nom de la figure du détournement pour s'en servir comme injure, pour dire ce qu'imbécile ne peut pas exprimer, puisqu'il ne peut pas dire imbécile. Il ne peut pas dire « je ne vous insulte pas, espèce d'imbécile ». Donc, vous voyez qu'il y a chez Hergé une réflexion profonde sur l'injure, n'est-ce pas ? Et on en a la confirmation supplémentaire dans l'étoile mystérieuse, n'est-ce pas ? Où le mot catacrèse intervient pour résumer toutes les figures de rhétorique accumulées dans ce qu'on pourrait appeler, le locuteur est un marin, c'est toujours le capitaine ad hoc, une bordée de jurons, n'est-ce pas ? Envoyez le télégramme suivant. Navire polaire Aurore à pseudo-armement John Kingsby. Indigné par procédé. Non, c'est pas assez fort. Bandit, c'est ça. Bandit, renégat, traître, cloporte, Judas, naufrageur, patapouf, papou, catacrèse. Et cela ne suffit pas. Il faut ajouter encore un terme, sans doute l'injure suprême, moujique. Quel programme pour les séances à venir ? Et je conclue dans 5 minutes. Je tiens à prolonger dans cet enseignement le travail des cours et en partie du séminaire de 2015. Je devrais, de ce point de vue, vous rappeler maintenant les 18 questions sur lesquelles j'avais conclu la dernière séance de 2015. Mais nous risquerions un moment, disons, de fatigue dans notre chair, le monde naturel. Et peut-être que cela vous inspirerait des pensées pas directement l'expression d'un mouvement naturel de la chair. Donc je préfère me centrer immédiatement le propos, dire que je vais centrer mon propos sur ce que j'ai appelé le problème de Gethsémani et sur ce qui est refusé dans l'épisode du refus de la coupe, à savoir la passion elle-même, donc la souffrance, selon le témoignage de Matthieu 27-46. Cet objet du refus, autrement dit la souffrance, je l'examinerai la semaine prochaine philosophiquement et théologiquement. Je veux dire aussi, évidemment, et d'abord en philosophe et en théologien, mais aussi en historien, hein, en historien de la philosophie et de la théologie. Et je m'efforcerai, dans toutes les séances qui vont suivre, de l'inscrire, cet objet, dans une histoire de la douleur, articulant structure et événement. En effet, comme l'écrit M. Javier Moscoso, dans cet ouvrage très intéressant qui s'intitule « Histoire de la douleur du XVIe au XXe siècle », eh bien, les martyrs et les saints se situent en quelque sorte en position médiane, moyenne, intermédiaire, sur une échelle allant décroissant, de la passion surhumaine du Christ à la souffrance humaine. Structure donc sur laquelle cette histoire de la douleur attire notre attention, structure que j'appellerais l'échelle de la douleur. Il y a une échelle de Richter, il y a une échelle de la douleur. Revenir sur le problème de Gethsémani, sur la prière d'agonie et le refus de la coupe, c'est reprendre en détail les questions 16 et 17 du 14 avril 2015, sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine, et c'est s'engager dans une enquête allant de Sergius de Constantinople et de ses sources à Maxime le Confesseur. Normalement, et je conclue, il ne devrait pas y avoir de problème du vouloir ou de conflit de vouloir ou de volonté chez le Christ. N'a-t-il pas dit lui-même en Jean 6, 38 « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Il y a pourtant un problème, le problème de Gethsémani, le refus de la coupe. J'entends donc vous montrer dans les prochaines séances que le conflit des vouloirs, entre vouloir, ne pas vouloir et nouloir, vous vous souvenez de ce terme qui correspond à nil en anglais, à noli en latin, le conflit des vouloirs, autrement dit du vouloir, du ne pas vouloir et du nouloir chez le Christ, que nous avions abordé l'an passé avec le Psephos, le texte de Sergius de Constantinople, se prolonge chez Maxime le Confesseur dans la représentation d'un conflit entre ce qu'il appelle la volonté naturelle, qui correspond, disons, à ces mouvements de la chair, n'est-ce pas, que j'évoquais tout à l'heure, et ce qu'il appelle le vouloir gnomique, de la gnomée, hein, entre ce qu'il appelle le logos et le tropos. Et nous verrons donc que ce conflit auquel je fais allusion mobilise d'une façon particulièrement remarquable les notions de nature et d'hypostase et qu'il est repris donc au Moyen-Âge avec la thèse selon laquelle, et la discussion de la thèse selon laquelle, il est impossible à l'homme de vouloir son propre mal. Donc cette impossibilité, Maxime donne à l'entendre au niveau de la volonté naturelle, c'est-à-dire de la nature de l'homme, mais pas de l'hypostase et de ce qu'il appelle le vouloir gnomique, qui nous permettent, et eux seuls, pour reprendre une expression de Benoît XVI, qui a consacré un texte à Maxime le Confesseur, de dire non à Dieu et donc de pécher. Je reviendrai un petit peu sur ce texte. Et donc, je dirais que nous travaillerons sur cette... dans un premier temps, nous ferons beaucoup d'autres choses aussi, mais en tout cas, nous commencerons par cela. Nous travaillerons sur la thèse essentielle de Maxime qui tient dans l'affirmation que l'opposition d'un vouloir humain pécheur à la volonté divine dans le Christ ne réside pas dans sa nature, mais dans ce que Maxime appelle un mode hypostatique ou trope. Et donc le mode hypostatique, c'est ce qu'on appellerait tout bêtement, en français de tous les jours, un mode subjectif. Donc je m'arrête là et je vous dis à la semaine prochaine, if any.